L'année a mal commencé pour tout le monde et quelqu'un m'a dit, m'a rassuré en me disant, t'inquiète pas, l'année du serpent est à la fin, dans 2 semaines c'est fini et une autre vie va commencer. Donc comptons sur les Chinois. Ça m'a rassuré un peu, mais c'est vrai que c'est un sentiment général. Donc je vous souhaite une bonne année, malgré ce sentiment de mollesse qui nous accompagne. Hier, j'étais au théâtre, il y avait 2 gamines qui parlaient d'une amie et qui disaient « Elle est féministe, mais mollement !» Et je lui ai dit « Comme l'année !» Et il m'a dit « Exactement, monsieur !» Donc, tout est mollement, donc... voilà, l'axe auquel on avait pensé avec Marilyn, avec Claire, à partir de ce livre « Amour et désamour » qui ouvre un certain nombre de questions que nous avons traitées ici et qu'on essaie d'affiner avec des artistes, c'est humain, trop humain. Bien entendu, on reconnaît la référence à Nietzsche, mais elle n'est pas une référence directe, immédiate à l'œuvre de Nietzsche, mais je crois que ce qu'on peut dire, que c'est vrai que l'amour et des amours du théâtre, comme il est en train de se faire, le théâtre au présent, on retrouve cette antinomie dès le début de la modernité, c'est-à-dire que dès le début de la mise en scène, et il y a 2 branches, une branche qui est la branche avec représenté par des metteurs en scène comme Antoine et Stanislavski, qui se place du côté de la vie, de la valorisation de la vie, de la recherche de la vie sur le plateau. Et à la même époque, c'est tout à fait contemporain, l'autre branche qui met en cause l'humain au profit du non-humain, si on peut dire, mais qui engage le procès de la présence humaine sur un plateau. Donc il y a d'un côté Antoine Stanislavski et de l'autre côté Maeterlinck et Craig. Maeterlinck dit dans un texte célèbre, Menu propos, le poème est une œuvre d'art, mais sa représentation humaine le contredit. Quelque chose d'Hamlet est mort pour nous le jour où nous l'avons vu mourir sur la scène. Le spectre d'un acteur l'a détrôné et nous ne pouvons plus écarter l'usurpateur de nos rêves. Ouvrez les portes, ouvrez le livre, le prince intérieur ne revient plus. Donc il y a cette idée que la présence humaine détériore l'imaginaire suscité par le texte. Et on arrive à cette phrase tout à fait symptomatique, la scène est le lieu où meurt le chef-d'œuvre, parce que la représentation d'un chef-d'œuvre à l'aide d'éléments accidentels et humains est antinomique. Tout chef-d'œuvre est un symbole, et le symbole ne supporte jamais la présence active de l'homme. Et il va plus loin, et on va revenir un tout petit peu, il dit, chez les Grecs, les masques servaient à atténuer la présence de l'homme et à libérer le symbole. Le procès engagé par Maeterlinck contre l'acteur est tout à fait, je le cite un peu parce qu'il est moins connu que le texte de Craig, il dit « L'absence de l'homme sur un plateau me semble indispensable. L'homme ne peut parler qu'au nom de lui-même et n'a pas le droit de parler au nom d'une multitude de morts. Un poème que je vois sur une scène est toujours un mensonge. » Maeterlinck envisage l'idée de remplacer les acteurs par les figures de cire. Les figures de cire qui lui permettraient de faire avancer sur la scène des êtres sans destinée, dont l'identité ne viendrait plus effacer celle du héros. Il semble aussi, je souligne, que tout être qui a l'apparence de la vie sans avoir la vie fasse appel à des puissances occultes. Il n'est pas dit que ces puissances ne soient pas exactement de la même nature que celles auxquelles le poème fait appel. Les fois, c'est là ce qu'on recherche, les fois qu'inspirent ces êtres de cire semblables à nous, mais visiblement pourvus, qui sont, mais sont pourvus d'une âme morte. Ces êtres ne peuvent pas mourir. Les figures de cire se meuvent dans une atmosphère de terreur. Donc c'est tout à fait l'opposé de ce que cherche Stanislavski. Et presque à la même époque, un peu plus tardivement, Gordon Craig va engager, va formuler le grand rêve, qui a été souvent mal interprété, de la surmarionnette. La surmarionnette, la motivation du recours à la surmarionnette est liée à l'horreur que lui inspire la présence humaine et l'accident indissociable de l'homme sur un plateau. Donc d'une certaine manière, l'œuvre n'est pas artistique dans la mesure où elle n'est pas entièrement maîtrisée. Et en même temps, comme Maeterlinck, la surmarionnette de Craig, qui est une sorte de vision utopique, vient apporter une réponse à la question de l'art et permet en même temps le rejet de sa bête noire, comme pour Maeterlinck, qu'est le réalisme. Donc, écarter l'humain, ça serait un peu la solution pour accorder au théâtre la dimension de l'art que justement qui est compromis si le matériau principal est un matériau vivant. Et donc à partir de là, je me suis dit qu'au fond il y a eu deux branches qui se sont dégagées avec, comme disait Jean-François tout à l'heure, avec des rameaux qui compliquent la situation, mais les branches existent. Donc il y aurait donc la branche qui se situe du côté de la vie, le théâtre comme double de la vie, et l'autre opposé qui place le théâtre du côté de la mort. Il y a la branche qui place le théâtre grâce à l'humain du côté de l'acte, et l'acte qui est absolument exalté par quelqu'un comme Artaud. Artaud pousse peut-être le plus loin l'exigence de l'humain sur le plateau, et de l'autre côté, la branche qui considère que l'exclusion de l'humain, ça serait donc la chance d'accéder à l'art. Enfin, je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'humain, la présence de l'humain sur le plateau renforce la présence, le théâtre comme un acte de présence, tandis que la présence des mannequins, la présence des figures de cire, etc., introduit une distance. On ne s'identifie pas à la vie du plateau, c'est une image de la vie. Et à cela s'ajoute, pour tout ce qui est de l'ordre du combat entre l'humain et l'inhumain, une question de pouvoir. Et généralement, les gens, les metteurs en scène et les artistes qui réclament l'exclusion de l'humain affirment implicitement un certain goût explicite du pouvoir, du désir de maîtriser le plateau à 100%, ce qui est le cas en particulier de Gordon Craig. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au fond, le rejet de l'humain est habité par cette idée de l'autonomisation du spectacle comme œuvre d'art. Le spectacle n'est plus un double de la vie, mais le spectacle est un art autonome, comme un tableau, comme une sculpture, etc. Des années, cette opposition a connu une évolution à des vitesses variables. C'est-à-dire le théâtre qui défend l'humain est un théâtre qui s'impose tout au long de la première partie du XXe siècle, donc de Stanislavski jusqu'à Artaud et Copeau, Juvet, etc. Tandis que l'autre voie est une voie qui semble être une voie de garage, un peu une impasse. Une impasse qui était vaguement corrigée par quelqu'un comme Meyerhold, qui veut contrôler l'acteur en créant la biomécanique sans l'écarter. Donc l'acteur doit être un outil pour le metteur en scène. Et mais chose qui est vraiment intéressante, c'est de voir qu'au fond, ces deux grandes projections de Metternich et de Craig vont trouver leur accomplissement 60 ans plus tard dans l'œuvre des deux plus grands réformateurs du théâtre moderne, à savoir Robert Wilson et Cantor. Robert Wilson se déclare de manière programmatique un adversaire de la présence explicite de l'humain sur un plateau. L'humain sur le plateau l'intéresse uniquement en tant que matériau qui peut être modelé selon des critères plastiques. Il y a des gens qui m'ont raconté récemment qu'il y a eu des acteurs qui ont eu des problèmes énormes avec Wilson, parce que Wilson disait « tu fais comme ça ». Donc il y a une sorte de mécanisation de l'acteur, mais qui n'est pas gratuite, qui n'est pas arbitraire, qui est liée profondément à une vision plastique de Wilson. Et c'est un texte très très beau qu'a publié Laurent Godet, déjà il y a 20 ans, un texte où il démontre qu'au fond, c'est Wilson qui a répondu et qui a retrouvé sur un plateau le modèle de la submarionnette recherché par Craig. Je dirais que l'autre artiste qui crée un univers, c'est Cantor. Cantor qui va faire appel aux mannequins qui viennent des arts plastiques. Il se réclame des marionnettes de Oscar Schlemmer, mais il se réclame surtout du livre et du discours de Bruno Schulz sur le traité des mannequins. Pour Cantor, de nouveau comme pour Metternich, le mannequin, dit-il, est un objet vide et un messager de la mort. Donc le théâtre, le livre s'appelle Le théâtre de la mort, de Cantor. Donc les mannequins se situent. Je ne sais pas si c'est moi, non ?
C'est Cantor.
Ah oui, c'est moi, c'est Cantor. Oui, peut-être, je pense que c'est ça. Mais c'est une bonne blague parce que c'est un numéro de Pollock. Donc, c'est l'autre, c'est l'adversaire de Cantor, c'est Grotowski. Ça vient de Vroslav. Donc, Cantor considère que le mannequin est un objet vide et un messager de la mort, et qu'en même temps, le mannequin nous apparaît sur un plateau, non pas proche comme un être humain, mais lointain, terriblement étranger. Le mannequin renvoie, dit Cantor, à la logique du rêve. Ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que peut-être que le succès du théâtre de Cantor est lié au fait qu'il a découvert les mannequins. Il hurle dans une émission de télé en disant « Les mannequins, c'est mon invention. Je suis l'auteur des mannequins », ce qui est une définition tout à fait abusive. Je vous recommande d'aller voir une très très belle exposition d'objets surréalistes où on voit que les surréalistes ont déjà élaboré des mannequins, et surtout le grand artiste, qui est à la fois un artiste qui tient des arts plastiques et du spectacle, Bellemare, il parle du mannequin, et il donne une définition magnifique du mannequin en disant le mannequin est un objet particulièrement intéressant, mais il devient de plus en plus détestable dès qu'il se rapproche de la figure humaine. Donc, le mannequin n'a pas pour vocation d'être le double sur un plateau, mais au contraire, de marquer la différence entre l'acteur et une vision fantasmatique que cherche le metteur en scène à réaliser sur le plateau. Cantor disait au fond que, et je crois que c'est peut-être plus intéressant que Craig, qu'il veut se situer dans le guet entre l'art et la vie, et cela explique d'ailleurs pourquoi sur ce plateau, sur le plateau cantorien, se mélange les acteurs et les mannequins. Et j'ai vu récemment Vielopole, justement à Wroclaw, vous vous rappelez, et dans Vielopole, on voit le gardien de l'école, tantôt le gardien vivant, tantôt le mannequin, et à la fin ils se retrouvent tous les deux. Donc ce qui produit une sensation de vertige, de trouble, comme si la matière inerte copiait la matière humaine, et comme si la matière humaine adoptait le comportement rigide de la matière inerte. Pour conclure, on parlait tout à l'heure, et je me suis dit qu'au fond, même ce qui est considéré aujourd'hui comme le phénomène le plus moderne, c'est-à-dire l'apparition des installations et des performances, je crois qu'on pourrait opposer les performances et les installations selon le même critère. Les performances privilégient l'humain, privilégient l'activité physique étonnante, surréaliste, perturbatrice, et de l'autre côté, les installations, elles, privilégient beaucoup plus la construction plastique, qui cherche à apprivoiser, à domestiquer, voire même à écarter l'humain. Donc, c'est vrai que humain est trop humain, ça renvoie à ces dichotomies originaires de la mise en scène moderne, et en même temps, peut-être qu'on pourrait corriger, c'est que le fait de se révolter, de réclamer la maîtrise de l'humain, voire même l'exclusion de l'humain, n'est pas, comme ça pourrait le laisser croire, un symptôme de désamour du théâtre, mais bien au contraire, c'est un symptôme de surévaluation du théâtre. Le théâtre deviendrait enfin, grâce à l'absence de l'homme, une œuvre d'art accomplie. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un désamour du théâtre en tant qu'il se fait, en tant qu'il se pratique. Donc je dirais que ceux qui se situent du côté de la vie, de la présence, de l'acte, ce sont les artistes qui se rattachent au présent du théâtre, avec ses variantes et ses variations, tandis que les autres se rattachent plutôt à l'utopie du théâtre, à la construction imaginaire d'un objet parfait. Je finirai par raconter une petite chose, parce que une petite histoire qui m'a beaucoup frappé. Vous savez, ou si vous ne savez pas, que Stanislavski, qui était quand même à ses débuts l'homme le plus généreux du monde, il invite à Moscou Gordon Craig pour mettre en scène Hamlet. Et Gordon Craig arrive à Moscou, d'abord Brooke raconte, parce qu'il a parlé avec des Russes, complètement cinglés, en chemise blanche et escarpin, il fait moins 15, il peste contre le froid russe, la collaboration commence mal. Mais la collaboration continue à se détériorer en raison même du vœu de Craig, de construire un objet d'art complètement à l'opposé de ce que voulait faire Stanislavski. Donc, c'est un des échecs les plus retentissants de l'histoire du, du théâtre, mais en même temps c'est un échec qui nourrit cette opposition humain-anthrope-humain. Craig cherchait à exclure, Stanislavski cherchait à intégrer, et tout laissait supposer pour moi que, au fond, cet échec a entraîné une sorte de malaise qui s'est installé entre les deux. Et c'est très très émouvant, très très émouvant, de voir dans les appartements de Stanislavski, à la place centrale de l'appartement, une gravure de la maquette du décor de Craig dans Hamlet. Donc, au fond, entre ces gens, il y a eu une opposition, mais entre l'humain et le trop humain, on peut dire qu'il y a une grande dissociation de points de vue, mais que d'une certaine manière, les uns ont respecté les autres, tout en se situant sur des positions entièrement opposé. Donc après cette peut-être un peu longue, mais je me suis préparé. Donc je me suis dit qu'il faut le dire parce que c'est une question assez importante et qui peut prêter à beaucoup de malentendus. Donc je remercie le Théâtre de l'Odéon de continuer cette série à l'occasion de l'apparition de ce livre, Amour et des amours du théâtre. Mais aujourd'hui, deux amis ont accepté de venir, donc Jean-François Perret qui travaille sur des textes principalement non théâtraux, je ne vais pas le classer d'un côté ou de l'autre, mais je pense qu'il a une réflexion là-dessus. Et René de Secati, qui est un auteur, écrivain, un collaborateur proche de Alfredo Arias, et il a collaboré avec Alfredo pour les grands spectacles qui ont réhabilité la pratique du masque sur la scène contemporaine. Et pour revenir à ce que disait Metterlinck, peut-être que le masque atténue la présence de l'humain pour le rapprocher du symbole. Donc, si vous voulez, je ne vais pas poser des questions si vous êtes contre ou pour la présence de l'homme, mais, qu'est-ce que cette antinomie vous produit? Comment vous définissez par cette opposition qui, je crois sincèrement, qu'elle est réelle et qu'elle traverse ce qu'on a appelé le siècle de la mise en scène.
Je ne sais pas quelle est la question exactement. J'ai du mal à essayer de denter sur un des deux arbres mon petit rameau. Mais essayez quand même. S'il s'agit de répondre à la question, est-ce que... Bon, je veux parler de moi, je suis désolé, je ne peux plus parler de grand-chose d'autre.
C'est fait pour.
Ça commence à être urgent. À propos, tu parlais de la vie et de la mort.
Oui.
Bon, ouais. Soyons encore un peu longs. Donc, je sais pas, je me mettrais plutôt du côté de la vie. Parce que je crois que ce qui est important dans ce que tu présentais, enfin, ce que je retiens surtout dans les deux... à propos des deux arbres,
voilà,
et des différentes branches, c'est t'allier ça à la question de l'apparition de la mise en scène. Et je crois que c'est effectivement la question du metteur en scène qui est posée, et celui, pas seulement de son pouvoir, mais quand même passablement, et de ce qu'il a l'intention de produire. Et c'est vrai que, pour certains, si tu parlais de Wilson, tous les dispositifs sont destinés effectivement à une maîtrise absolue du spectacle et reproductif comme tel d'ailleurs. Et c'est pas forcément désagréable pour les comédiens, paraît-il. Enfin, j'en sais rien, je suis pas comédien. Mais il n'est pas le seul. J'avais travaillé avec une comédienne qui était avec Planchon. Il réglait jusqu'au petit. Il arrivait, la mise en scène était faite et après il fallait la performer, la réaliser. Et c'était le jeu du petit doigt était prévu, quoi. Bon. Et donc,
que ça, c'est une petite parenthèse, est-ce que c'est pas une différence entre quelqu'un comme Wilson
dont j'ai pas joué, c'est pas la même chose.
Non, non, mais dont le vocabulaire est un vocabulaire explicitement plastique, et la maîtrise dissimulée de metteurs en scène comme Blanchon, Bergman, vous le savez, Bergman a une formule terrible, et il dit, moi quand je viens pour la première fois dans la salle de répétition, les rails sont tracés, les acteurs n'ont qu'à les emprunter. Donc, mais sans donner cette impression de quête d'une exclusion de l'humain, tandis que chez Wilson, elle est flagrante.
Bon, il faudrait se mettre d'accord sur la notion d'humain que personnellement je n'emploierai pas, enfin pour ce qui me concerne, parce que l'humain déborde un petit peu la seule question de la présence corporelle physique ou de l'homme en tant qu'individu. Parce que moi, il se trouve qu'en ce moment, je vais faire un peu de publicité, mais je fais un spectacle à la Colline là, où il y a beaucoup de machines. Hein. Et donc, quelqu'un qui est rentré hier, un spectateur m'a dit qu'il était à côté de quelqu'un, quand il a vu les machines, a dit ça commence bien. D'ailleurs, elle est partie tout de suite, là. Avant que ça commence même, d'ailleurs. Donc, c'est bien que ça clive encore un peu. Mais je dirais que quand je vois des ordinateurs ou ta montre, pour moi, il y a de l'humain là-dedans, quoi. Hein, je veux dire, je crois que la question de la présence ou la question du statut de l'humain versus quoi, pas humain, non humain, inhumain, bon, c'est compliqué, se limite pas à la question du comédien, parce que au fond, moi, je retiendrai deux choses, la question du metteur en scène et de sa volonté, au fond. Et effectivement, est-ce qu'il sait ou non? Est-ce qu'il connaît les rails, quoi? Et il sait dans quelle gare il va s'arrêter, et après, ce sera bon. Ce qui est une façon de créer. Et de l'autre côté, des gens plus ouverts à l'indéterminé. Et là, je me mettrais... c'est embêtant d'intervenir après tous les noms que tu as cités de l'histoire du théâtre, parce que vraiment, ça fait un peu prétentieux. Mais pour ce qui me concerne, moi, même si je travaille avec des machines... je me pose la question du rapport du sujet parlant avec toutes les machines de reproduction, de transmission, de communication, monde numérique dans lequel nous vivons, mais il est vivant lui aussi. Parce qu'effectivement, si tu transportes ton image vivante en Californie par un Skype, c'est pas de la mort forcément, même si c'est pour annoncer un décès. Mais je veux dire, c'est tout ça me paraît et de l'humain et du vivant. Et moi, ma manière de travailler, c'est le deuxième point, fait tout à fait appel aux comédiens. Bon, dans la mesure, par exemple, où tu parlais des textes, tu ne savais pas trop quoi dire, de ce type de théâtre que je faisais, mais moi non plus, je te rassure. Bon. Mais en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas de la mise en scène d'un texte préalablement écrit par un Shakespeare ou moi. Bon. Donc, en fait, je raconte ça rapidement, ça peut laisser débat. On travaille à partir de... Pas dans le dernier cas, puisque dans un cas, c'est un travail à partir d'un livre, Walden, de Frodo. Donc, bon, j'en parlerai peut-être si... Mais enfin, c'est plein, donc je ne sais pas pour vendre des places. Mais je veux dire par là que le comédien, quand il arrive travailler avec moi, non seulement moi, je ne vois pas les rails, mais je ne sais absolument pas à quoi ça va ressembler. Et lui non plus, puisqu'en gros, il a 400 pages d'une partition zéro autour des thèmes qu'on aborde. Ça peut être la dernière fois... la question de la technologisation, de la procréation, de la descente, etc. Et puis, bah, il faut qu'il se promène là-dedans, il va chercher, enfin on cherche ensemble, mais déjà son texte, sa partition n'est pas constituée a priori. Et donc on peut dire que si c'est tel comédien ou tel autre, ça ne sera pas le même spectacle. Ça c'est de la vie, non ? Ouais, bon. Et de même, ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'au fond, ses capacités d'improvisation, d'imagination ou d'écriture d'une certaine manière, ou de coécriture du spectacle sont représentées là, de manière plénière. De la même manière, dans l'interaction qu'il a avec les machines, puisqu'on joue beaucoup sur la vidéo, par exemple, soit en direct, soit pas, ou sur la transformation du son, travaillant essentiellement sur cette division entre la présence du corps d'un côté et la voix de l'autre. Depuis Beckett, on sait que c'est dissocié. Dissociable, ça m'intéresse par exemple, parce que c'est une expérience commune. Tout d'un coup, ça a sonné là, ton truc, c'était sans doute pas Cantor, encore que les morts parlent peut-être, mais je veux dire, une voix qui était là, c'est quand même toujours, ça me fascine encore, moi, de penser qu'il y a une voix qui est dans ma poche, comme ça, au fond d'un sac de quelqu'un que j'aime, par exemple, et dire, j'ai laissé ma voix là, puis ça devra sortir tout à l'heure. Je trouve ça très vivant, extrêmement intéressant, et crée effectivement des conditions de dialogue humain tout à fait nouvelles, que les gens de théâtre n'aiment pas toujours, parce qu'on a quand même affaire souvent à un fondamentalisme humaniste. Enfin, il y a des aléatoires d'humanisme là qui nous disent qu'ils savent ce que c'est que le théâtre, ce que c'est le dialogue théâtral. Bon, si on ne fait pas ça, on est exclu. Mais ça, c'est mort pour moi, d'une certaine manière. Mais je veux dire, que ce soit le rapport, disons, à un texte qui n'est pas encore écrit, après à des interactions avec des machines, comme les vivants font, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je veux dire, je ne sais pas où tu me places, mais je crois que ça fait tout à fait appel aux comédiens et pas aux personnages, parce que c'est un théâtre sans personnage. Même si on travaille sur Alan Turing, par moments, il peut devenir le personnage, mais il est toujours le comédien. C'est un tel et un tel. Donc, c'est de la présence même civile à l'état civil. J'aime bien cette expression, de la présence à l'état civil. Et après, effectivement, il faut inventer de l'art. Mais, donc, si, première étape, réponse du côté de la vie. Ça va t'étonner.
Mohamed, tu veux...
Enfin, ma présence est un peu différente, puisque je ne suis pas metteur en scène, et que je collabore essentiellement avec Alfredo Arias pour les textes. Donc, évidemment, mais j'ai beaucoup observé. Beaucoup observé les mises en scène, beaucoup observé les comédiens, et quand on n'est pas actif au moment d'une répétition, évidemment, on est nécessairement du côté des comédiens. C'est-à-dire, on est du côté de ceux qui vont écouter la parole du metteur en scène, qui vont essayer de l'incarner ou incarner le texte qu'on a écrit. Alors, c'est drôle, quand tu as parlé... de la mort et de la vie, et au fond, moi, je mets la mort du côté de la présence humaine. Je trouve qu'un comédien qui va incarner un texte sur scène est quelqu'un d'extrêmement menacé, et que, en fait, c'est pas, bien sûr qu'il est la vie, mais il est la vie avec une présence très forte d'une menace de la mort. Donc la mort n'est pas nécessairement dans l'inhumain, enfin dans l'absence de parce que s'il n'y avait sur scène qu'une mécanique sans acteur vivant, évidemment, on n'aurait même pas l'image de la mort, on n'aurait rien du tout. On aurait un spectacle mécanique, une mécanique, mais voilà. Et là, Jean-François vient justement de parler de la présence des comédiens, même s'ils ne sont pas des personnages, ils sont eux, là, vivants. Alors donc ça, c'est... moi, je suis extrêmement angoissé au théâtre, mais alors que je participe beaucoup à des spectacles comiques, puisque la plupart des spectacles d'Alfredo sont des spectacles comiques, et où vraiment la pulsation d'un spectacle est donnée par le rire de la salle, et quand le rire de la salle ne vient pas, c'est comme si quelque chose s'effondrait dans le spectacle même. Et pourtant, malgré la présence de ce rire, c'est quelque chose qui moi, m'angoisse beaucoup, parce que justement... il suffit que le rire ne vienne pas pour qu'on ait l'impression que tout s'effondre et que quelque chose n'arrive pas à vivre sur scène. Voilà, alors, donc c'est extrêmement paradoxal. Et d'autre part, tu parlais de Bergman. C'est incroyable que Bergman dise les acteurs sont sur des rails. Alors
pour le théâtre. Pas
pour le théâtre. Alors qu'évidemment, nous avons la vision... au cinéma, en tous les cas, d'une suractivité de l'acteur. On n'imagine pas le cinéma de Bergman sans cette présence extraordinaire d'acteurs sublimes. Alors, par ailleurs, tu as abordé le problème du masque. Et le masque, ça, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, puisque, bon, en effet, Alfredo a beaucoup travaillé avec le masque, avant que je collabore avec lui, avec... ces fameuses peines de cœur d'une chatte anglaise où au fond il a découvert toutes les possibilités du masque, et moi j'ai participé donc à la reprise, enfin un autre spectacle, mais bien 20 ans plus tard, qui était les peines de cœur d'une chatte française. Et là j'ai beaucoup assisté au travail du masque, et Marie-Lou Marini, malheureusement je lui ai demandé de venir, mais elle n'est pas à Paris. Marie-Lou Marigny, qui n'était pas sur scène dans le deuxième spectacle, mais qui avait créé Beauty dans le premier spectacle, dirigeait les comédiens pour l'utilisation des masques. Et c'était extrêmement intéressant parce que les comédiens, ils étaient tous jeunes et évidemment étaient privés de leur visage, ce qui est une perte considérable pour un comédien. Et comment faire pour... ce que faisait Marie-Lou, c'était empêcher les comédiens de compenser la perte du visage, parce qu'ils étaient tous tentés de surjouer, à la fois par leurs gestes, par des mouvements qui détruisaient complètement la structure du masque, parce qu'ils devaient apprendre qu'évidemment qu'un masque ne prend pas la lumière comme un visage, et donc il faut être extrêmement prudent dans le mouvement des masques. Mais bon, ça, n'importe quel acteur de kabuki, ou de, enfin pas du kabuki, mais du no, là où le masque est présent, le sait. Donc on ne peut pas tourner la tête n'importe comment, bien sûr, et on ne peut pas lever la tête n'importe comment, etc. Et les gestes, je me rappelle que Marie-Lou décomposait les gestes pour que, quand il tendait la main, par exemple, quand il tournait la main, ou quand eux-mêmes se pivotaient, pour que ça ait un sens, pour qu'ils ne donnent justement pas l'impression d'être des marionnettes. Comment faire réapparaître la vie? Là, Marie-Lou m'a envoyé un petit SMS avant que je vienne, en me disant, n'oublie pas de dire que pour un acteur, un masque est la communication avec son inconscient. Il est en rapport direct, l'acteur est en rapport direct avec l'inconscient quand il porte un masque. Et je pense que... comprendre à peu près ce qu'elle dit, c'est-à-dire que on ne peut pas jouer, bien sûr, n'importe quel texte avec des masques, ou bien des textes antiques, bon, où Shakespeare a été représenté avec des masques, etc., ou alors des textes très simples, mais qui ont une grande force. Bon, en l'occurrence, nous, c'était des textes qui étaient quasiment des textes pour enfants, puisque c'était adapté de contes. Mais des contes qui avaient tous été écrits par des adultes, puisque la série des peines de cœur venait des albums de Granville, et qui avaient déjà toute une philosophie du rapport entre l'animal et l'humain, et donc il y avait en plus la présence de l'animal qui s'ajoutait qui était un autre mode d'existence, un autre mode de présence sur scène, puisque ce n'était pas simplement des masques qui représentaient le... comme dans le théâtre antique, le personnage, mais ça représentait déjà une autre phase intermédiaire. Alors, voilà, bon, en ce qui concerne la volonté de pouvoir du metteur en scène sur les êtres humains qui sont sur scène, c'est vrai que la question se pose, elle est énorme, parce que moi, je peux témoigner des difficultés, en tous les cas, auxquelles j'ai assisté. Et Alfredo demande toujours que les comédiens, quand ils entrent dans une salle de répétition, tournent complètement le dos à tout ce qui fait l'humain de leur vie quotidienne. Évidemment, non pas de se déshumaniser, mais en tous les cas, de ne pas arriver avec leurs angoisses personnelles, leurs problèmes, même leurs maladies. C'est très dur d'être comédien, puisqu'il faut complètement mettre entre parenthèses toute une partie qui fait la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre de l'ordre dans un chaos. Mais ça, c'est le problème général du théâtre. Que l'on écrive une pièce de manière classique, avec des personnages, ou que l'on fasse le travail que fait Jean-François, ou qu'on utilise des comédiens, ou qu'on les utilise avec des masques, il s'agit de réorganiser une scène autonome qui, bien sûr, se nourrit de la vie extérieure à la scène, ou de la vie personnelle de l'auteur et de la richesse émotionnelle des comédiens, mais de la réorganiser pour qu'elle ait une force. Alors les moyens par lesquels on y parvienne peuvent être extrêmement différents, mais au fond, on cherche la même chose, quel que soit le théâtre. Pour parler de Wilson, bon, je peux témoigner d'une expérience, non pas directe, mais mais indirect, parce que je suis très lié à une comédienne qui est Adriana Asti, qui a fait « Oh les beaux jours » sous la direction de Wilson. Elle l'a fait en italien et en français. Et elle a souffert. Elle a souffert parce que c'est une actrice surexpressive, elle, c'est une actrice de cinéma, et qui a beaucoup, beaucoup joué au cinéma, qui a beaucoup joué au théâtre avec Visconti, enfin, fait énormément de choses avec Visconti et avec Streller, avec Ronconi. Donc elle a travaillé avec vraiment des grands. Et elle est entre les mains de Wilson, et qui en effet fait ce qu'il veut dire, tourne à droite, regarde en haut, avance la main, et en ne faisant absolument aucun commentaire sur le texte lui-même, que peut-être d'ailleurs il ne comprenait pas, il ne comprend pas le français, donc, ni l'italien. Donc c'était, enfin, il a une connaissance, disons, minimale de ces langues. Donc c'est un peu compliqué quand même. Mais le résultat est saisissant. Alors, parce que, évidemment, il ne s'est pas adressé à n'importe quelle comédienne. C'est que quand Bob Wilson dirige Isabelle Huppert, il ne prend pas une marionnette quand même, ou Michel Piccoli, il prend pas des marionnettes. Donc il est obligé de compter aussi sur leur force, leur présence humaine. Autrement, il prendrait un automate. Donc ça veut dire que même chez les metteurs en scène qui semblent mécaniser l'homme et le déshumaniser, en réalité, ils jouent complètement sur cette vibration humaine qui est complètement irremplaçable. C'est quand même pourquoi on va au théâtre, parce qu'on sait que ça peut s'effondrer, justement. Parce qu'on sait qu'il y a, cette fragilité qui est unique. Parce que on est quand même le spectateur est en communication avec l'acteur sur scène, et s'il n'y avait pas cette semblable humanité entre le spectateur et l'acteur, le miracle du théâtre ne fonctionnerait pas du tout. Hein, donc, au fond, même, je crois que même chez ceux qui déshumanisent apparemment le spectacle, il y a inévitablement une présence très très forte. Autrement, il faudrait que vous parliez, mais autrement, si on vous reproche par exemple de faire des spectacles intellectuels, mais ce ne sont pas des conférences que vous faites.
Donc mais je n'ai pas dit qu'on me reprochait ça.
Non, mais si on dit, bon, le théâtre, tout à l'heure, ce n'est pas de la pensée. Voilà.
Mais là, moi, j'ai écrit, c'est une petite parenthèse, j'ai écrit un article sur l'accident au théâtre en disant que j'aime beaucoup les accidents au théâtre, donc j'y vais presque pour les attendre. Et la dernière phrase, c'était, chez Wilson, il n'y a jamais d'accident, j'aimerais en voir un une fois. Et c'est vrai qu'il s'est foulé la cheville. Deux semaines plus tard, et des amis entre guillemets lui ont montré l'article, il a considéré longtemps que c'est moi qui lui portais la guigne, parce que à cause de ce vœu d'accident. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, bien entendu, quand je dis humain, trop humain, c'est un peu pour isoler comme en chimie deux éléments purs, qu'au fond il s'agit d'une sorte de mélange, et que Maeterlinck, Craig sont dans le discours sur le théâtre, mais les metteurs en scène dont je parle, en particulier Cantor, travaillent sur la dimension hétéroclite, sur la conjugaison du vivant et du non-vivant, de l'humain et du non-humain, entre guillemets, et que peut-être non seulement la classe morte, où c'était la grande révélation de cette cohabitation des mannequins et des vivants dans Vielopole et Vielopole, mais ensuite dans certains spectacles, par exemple dans La Cerisier, peut-être la solution la plus étonnante de Mathias Langhoff quand il avait fait La Cerisier, c'était que le fils de Lubov, qui est mort noyé, était présent tout au long du spectacle par le biais d'un mannequin. Donc il y avait une sorte de présence de la mort, de la mort de l'enfant grâce au mannequin. Donc me dis qu'au fond, peut-être, humain trop humain, c'est pas, il ne s'agit pas de les isoler complètement, mais que quand on assiste à une sorte de conjugaison d'impureté, l'alliance des deux peut produire des phénomènes très, très, très poétiques, lorsque tu me l'as compté sur...
Alfredo a utilisé plusieurs fois des mannequins, il l'a fait pour le Palais de la Reine, qui est une pièce à laquelle je n'ai pas collaboré, mais qui est une pièce de Chantal Thomas, qui est une pièce complètement comique, hein, qui a un rapport entre une mère et une mère absolument monstrueuse et un fils complètement informe et mollasson que jouait Alfredo, et Marie-Lou jouait la mère. Et il y avait en effet un mannequin sur scène qui représentait... Marie-Lou était doublée. Donc la mère était doublée par un mannequin qui semblait être elle-même. Au début, quand les spectateurs entraient, ils croyaient que c'était elle immobile, mais en fait, c'était un mannequin. Et évidemment, ça donnait quelque chose d'extrêmement intéressant, évidemment, sur la communication la difficulté de communication des personnages, même s'ils étaient... Là, j'intellectualise, mais l'effet était comique. Et lui-même a transformé son corps en mannequin, parce que Alfredo a beaucoup joué en travesti. Récemment, en tous les cas, il a joué donc les bonnes et Madame de Sade de Mishima. Et dans les deux pièces, donc il joue un rôle. Il n'est pas simplement, il est travesti. Donc et en plus, son corps est complètement été réinventé, puisqu'il avait Il avait mis toute une structure qui se décomposait dans les deux pièces, aussi bien dans Madame de Sade que dans Les Bonnes. Et c'est vrai que l'interprétation qu'il a fait de Madame dans Les Bonnes était très étonnante. Bon, mais ça, c'est un autre problème, c'est le problème de Genet qui est très difficile à représenter maintenant, qu'on ne peut pas représenter de manière classique comme une pièce bourgeoise, comme elle a été créée par Jouvet. Mais où il y a eu tellement d'interprétations depuis, et il a eu cette optique de rendre complètement artificiel le personnage de Madame. Bon, en plus, il ne dissimulait pas sa voix, c'était une voix d'homme, mais tout était artificiel, puisqu'il avait un masque pour Madame, et son corps féminin donc se désarticule, il finit par tout enlever, et il apparaissait à la fin en collant noir. Et ça, c'est aussi tout un travail extrêmement intéressant sur la désintégration aussi de l'apparence théâtrale.
Mais pour revenir un peu aux machines, à la présence de machines, il y a eu récemment, là, il y a quelques années, pas récemment, il y a quelques années, le spectacle de Goebbels, où il n'y avait que le mouvement, la poésie des machines, dans l'absence de tout comédien. C'est que cette dimension hétéroclite, impure entre l'humain et le non-humain, était complètement écartée au profit de cette maîtrise absolue de la machine. Et je reconnais que j'ai vu d'autres spectacles de Goebbels où j'étais vraiment très, très séduit, intéressé, mais que là, il me semblait que cette radicalisation du mouvement, de ce mouvement du côté du non-humain, produisait quand même un manque, que la machine ne se suffisait pas à elle-même tout à fait.
Oui, mais bon, je crois qu'on arrive au cœur du débat. Ce n'est pas tellement la question du rapport entre la vie et la mort, mais entre le vivant et le mécanique aussi. Parce qu'au fond, quand on parle de soit des mannequins, soit des petites formes de marionnettisation du comédien, on arrive chez Wilson, à l'envers, à la question de l'inquiétante étrangeté, enfin l'indiscrète en général, c'est la poupée qui donne le sentiment de la vie, ou le mannequin qui n'en sait pas s'il est vivant. Et là, ce qui est troublant, à chaque fois c'est une question de trouble, ce qui est troublant dans l'affaire Wilson et Isabelle Huppert, qui a aimé faire ça parce qu'elle en demande, c'est effectivement, on sent tellement que c'est mécanisé, c'est-à-dire qu'il y a la consigne au millimètre près, que ça devient intéressant qu'il y ait de l'humain. Donc il y a juste une frontière là qui est tout à fait, enfin qui, qui ressortit au théâtre, vraiment. Parce que c'est là, pour moi, c'est effectivement un des lieux où cette question des rapports entre le mécanique, pour dire vrai, pour dire vite plutôt les choses, vrai, je ne sais pas, et le vivant se pose. Et pour moi, c'est un lieu d'expérience possible, justement, d'où les machines. Mais alors, on met toujours Goebbels dans les pattes, seulement parce qu'il a imité certains de nos spectacles, notamment qu'on avait fait avec Jourdeuil, le paysage sous surveillance, où il y avait un quatuor sur scène, des machines, André Wim, etc. On a retrouvé l'idée un peu plus tard. Bon, mais peu importe, mais je veux dire, le fait que Goebbels ait fait ça n'induit pas que toute utilisation des machines, justement dans un rapport dialogique, dialectique, etc., avec les comédiens vivants.
Il n'y en avait pas.
Mais non, justement, toute utilisation de ces machines-là ne conduit pas nécessairement à l'exclusion des comédiens. Pour ce qui me concerne, au contraire, j'en ai tout à fait besoin, puisque c'est eux qui interagissent sans arrêt, qui font qu'il y a quelque chose de vivant. Parce qu'on a des rapports, aussi, encore une fois, aussi vivants avec des machines qu'avec quelqu'un qui vous dit à moi compte deux mots. Hein, bon, donc, qui se prend pour un bien même nom. C'est quand même, c'est encore plus étrange. Hein. Et donc, je veux dire que la dérive ou la façon dont Goebbels est arrivé à ce spectacle qui en est un, mais je veux dire, c'est plutôt comme, après, utiliser cette catégorie tout à l'heure, celle de l'installation. Bon, effectivement, on parlait tout à l'heure, Walden, on a eu une étape installation au Fresnoy, etc., où il n'y avait que les machines qui marchaient, c'est-à-dire des images, des sons, de la musique, c'est-à-dire des avatars, la traduction automatique. Il n'y avait pas de présence. Il n'y avait pas de présence, aucune raison d'être, sauf les soirs de performance. Mais le fait de faire des installations, par exemple, n'est pas une menace nécessaire pour le spectacle vivant, qui pour moi reste le lieu de cette interaction, je prends le mot puisque c'est lui qu'on emploie, entre précisément des comédiens bien vivants, et en tant que tels, ils sont chez moi eux-mêmes, ils ne sont pas encore des personnages, et donc ils se débattent avec à la fois du matériau intellectuel, narratif, ou éventuellement des personnages, et le fait qu'effectivement leur voix peut se balader, peut être transformée, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, même mettre simplement un micro devant un comédien, quand sa voix ne sort plus, là on n'en a pas ce soir, c'est étonnant. Parce qu'en général, même quand on parle à quelqu'un à 2 mètres de là, maintenant on a 3 micros, etc. Bon. Et par exemple, la difficulté que les comédiens, pas simplement les jeunes, ont à maîtriser, par exemple, leur voix quand elle ne sort pas simplement de leur corps et qu'elle commence à se balader, la difficulté qu'ils ont à considérer ça comme un instrument, comme un instrument de musique, par exemple, ou le fait de jouer avec sa propre image, si on est en vidéo, par exemple. Je me souviens qu'il y a maintenant 13 ou 14 ans, je ne sais plus très bien, on avait fait un spectacle où il y avait de la vidéo, là, c'est rapproché, bon, et Jeanne Balibar jouait, et tout d'un coup, elle avait un moniteur, elle voit que sur le grand écran derrière, elle était en gros plan. Bon, c'était un hasard, enfin, on était en train de répéter comme ça, elle s'est arrêtée aussitôt. Elle me dit, qu'est-ce que je fais là? Je gère quoi? Ma présence vivante, l'actrice de comédie, ou bien le gros plan? Parce que je sais faire ça aussi au cinéma, quoi. Moi, j'ai jamais su lui répondre, on s'est débrouillé comme ça. Parce qu'effectivement, là, il y a la coexistence à la fois d'une image de type cinéma ou vidéo, ou n'importe quoi, et la présence réelle. Et c'est ce conflit, parce que ça peut être conflictuel, bien sûr, qui pour moi me paraît intéressant et qui est très vivant. Je suis en train de travailler sur Steve Jobs là, parce que j'aime les histoires de pommes, comme tu sais, depuis Turing, et c'était un formidable showman, hein, enfin, c'est un promoteur de spectacle qui faisait ses présentations au millimètre, etc. Il travaillait 90 heures, pas 91, hein, 90, bon, un obsessionnel total. Il a fait une erreur dans une présentation au moment de conflit avec Bill Gates. Il l'a appelé en direct pendant le show, la présentation, et a commis l'erreur d'être là, devant son pupitre au micro, et d'avoir un écran vidéo avec en grand Bill Gates qui n'était pas là, et bien là, l'autre a emporté le morceau immédiatement. Bon, et donc, il y a des choses comme ça à gérer. Dès que, par exemple, on est un comédien sur scène et que son image apparaît, il faut qu'il regagne, c'est difficile de rattraper le coup après, quoi. Enfin, ou autre chose d'ailleurs. Et donc, je crois que c'est cette frontière sans cesse mouvante, évidemment, entre le vivant, pour dire ça vite, et tout ce qui est de l'ordre du mécanique, ça veut dire aussi bien l'informatique, hein, je veux dire, quelque chose qui est interrogeable, en tout cas, précisément par le comédien, pardon, qui en plus a une machine à mémoire aussi. Toutes les machines comme ça, numériques dans les cas avec lesquelles nous vivons sont en fait des machines à mémoire. Toute machine, tout outil, le marteau se souvient qu'il va taper sur quelque chose. Bon. Et là, par exemple, dans le dernier spectacle, j'en dis un mot, on a travaillé sur le rapport entre la mémoire vivante des comédiens, c'est-à-dire qu'ils ont appris le plus possible du texte à Holden, et les enregistrements qu'on pouvait faire d'eux en train de le dire. Et même d'ailleurs, tu as vu le spectacle, pour un moment, une comédienne, on lui renvoie le texte qu'on a enregistré la veille alors qu'elle essayait de le retrouver, parce que je leur ai demandé surtout de ne pas travailler mécaniquement la mémoire, c'est-à-dire d'avoir un stabilo et dire je dis ça. C'était, voilà, c'est quand même faire confiance aux comédiens puisqu'ils ont composé le spectacle. On a composé le spectacle à partir d'une souvenance, d'une remémoration du texte. Ça a duré 5 ans, hein, je vous rassure. Donc il y a vraiment. Et tous les soirs, ça change par endroit. C'est-à-dire tous les soirs, ils sont confrontés à l'idée de retrouver, sur le mode d'ailleurs des dialogues entre machines, c'est-à-dire il y a un bout de texte qui arrive, dans le même corpus, ils doivent trouver une autre phrase, mais qui n'est pas la suite, parce que c'est jamais comme ça que ça se passe, comme font d'ailleurs les machines selon certains algorithmes, tu rentres un truc, quand on fait dialoguer les boss, comme c'est à la fin du spectacle, tu tapes un truc, elle va chercher selon un algorithme ou un mot-clé, hop, dans le corpus une phrase, mais c'est pas une phrase qui est logiquement, processivement la suite. Et donc ça crée d'ailleurs des choses assez, poétiquement assez intéressantes, parce qu'on sent quand même qu'il s'agit de la même chose. Hein, ça commence à tournoyer. Moi j'aime bien ça, ça fait de mal à personne. Mais je veux dire, c'est complètement vivant. Quand on me dit effectivement, vous n'aimez pas le théâtre parce qu'il y a des machines et peut-être aussi des textes qui ne sont pas des fables avec des personnages, moi je réponds rien parce que ça n'a pas d'importance. Mais je veux dire, c'est quand même, si on considère que au centre du processus, pour moi, il y a le comédien vivant qui arrive effectivement en oubliant. Il ne va pas parler sur le plateau. Il est obligé, dans ma règle du jeu, de n'utiliser que les textes qui sont dans la partition. Il n'a pas le droit d'improviser, par exemple. Il faut qu'il se souvienne toujours, qu'il apprenne. Et donc, là, c'est quand même, il me semble, construire la chose autour de quelque chose de vivant, parce que là, ils ont du mal. Ils jouent 27 fois. Il ne faut pas qu'ils se souviennent de la même chose. Et là, on a joué depuis un peu plus d'une semaine, maintenant, semaine ce soir. On voit déjà, au moment où il y a les endroits de mémoire vive, j'appelle ça, il y en a plusieurs, parce qu'il y a aussi des choses qui sont plus réglées, mais qui procèdent de leur mémoire, mais avant, et qui étaient mémorisées, parce qu'il faut faire des conduites au théâtre, surtout quand il y a énormément de machines, puisque là, on y a été fort, hein, quand même, il y a des voix de synthèse, des avatars, c'est bien, quoi. Là, on a tout fait, là. Après, on arrête. Bon. Mais la musique qui est commandée, les images qui sont commandées par la voix ou la musique, bon, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est amusant. Et c'est assez vivant. Il y a des pannes, là, je t'assure. Enfin, j'espère que tu n'écriras pas sur le spectacle avant que je me casse les deux jambes. Mais je ne joue pas. Mais je veux dire, il y a tout le temps. C'est-à-dire, on a remplacé l'angoisse du comédien qui arrivait ivre, en général, dans les générations à. Hein, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai joué ici, je veux dire, des angoisses quelquefois, quand à moins 5, on ne doit toujours pas arriver le sociétaire. Bon. Il arrive vivre-mort, donc on dit, ça va durer 20 minutes de plus, on sait ça. Bon, maintenant, les jeunes comédiens ou les plus récents sont plus clean, j'ai remarqué. Bon, mais il y a les machines qui bug, donc il y a quand même une angoisse encore plus grande de dire ça va pas marcher. Et dans notre histoire, c'est assez compliqué. Donc, tout ça pour dire que. Non pas défendre quelque chose, mais je crois qu'on peut très bien envisager effectivement un théâtre qui sent, parce que pour beaucoup le théâtre est le refuge de l'humain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de machine. Hein, on voit ça, donc quel humain il reste, parce qu'un un homme sans machine, on serait pas loin, hein, on serait encore quoi, on serait plus là, de toute façon on aurait eu froid. Si on n'invente pas au moins, c'est pas une arme pour se défendre, un truc pour ça. Bon, c'est foutu. Bon, ça nous mène effectivement là où on est techniquement, ce qui est peut-être un destin tragique. Je pense qu'on arrive, c'est suicidaire probablement. De toute façon, on sait que l'espèce est mortelle. À partir de combien de temps il nous reste, peut-être pas grand-chose. bon, la clientèle du théâtre, vu son âge, verra sans doute pas la fin, nos petits-enfants peut-être. Bon, donc ça va vite. Puis, de toute façon, il n'y en a plus que pour 4 milliards et demi d'années, vu que le soleil va imploser. Bon, donc ça, c'est foutu. Hein. Donc, non seulement l'année est molle, je ne l'avais pas remarqué spécialement, qui est une première, mais l'avenir de l'espèce est quand même compromis, le réchauffement ou pas. Mais en attendant, on peut quand même se divertir, le théâtre. Et c'est vrai que c'est quand même... j'arriverai pas à manipuler les comédiens, en fait. Je finis par les diriger, parce que je suis payé pour ça, puis il faut composer le truc, etc. Mais je dis souvent que c'est eux qui me dirigent dans le matériau, plutôt que moi. Alors après, c'est une question de tact. On sait si c'est juste, pas juste. Tu vois, c'est quand Bonafé me fait un truc, tu dis ça, tu gardes ça pour un autre jour. Mais c'est des choses comme ça qui finissent par naître. C'est intéressant d'ailleurs quand on n'a pas de texte, quand on ne sait pas du tout. Enfin, je veux dire, on parlait des rails. Moi, au début de chaque répétition, je ne sais absolument pas, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai, ce n'est pas de la coquetterie. D'ailleurs, ça n'intéresse personne. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Puis, dans ces interactions comme ça entre un texte, des corps, des voix, des trucs, des machines, de la musique, quelque chose finit par apparaître. Et ça, jusqu'ici, ces dernières décennies, ça a toujours apparu, mais ça n'a peut-être pas duré. Et ça, c'est quelque chose de vivant. Et ça, pour moi, c'est alors, je dirais pas humain. Puis humain, trop humain, ça m'embête un petit peu, parce que chez Nietzsche, c'est quand même un sarcasme. C'est une façon de dire, même Dieu est humain, trop humain, toutes les grandes valeurs, tous les idiots, etc. C'est jamais que... Cherchez, faites la psychologie un peu critique et du soupçon, vous trouverez la chose qui vous gratte pour inventer Dieu, quoi. La mort, par exemple, quoi. Quand Darwin vante le cerveau humain capable d'inventer Dieu, je trouve ça très beau, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la conversation. Mais je veux dire, ce renversement, quand même, c'est pas Dieu qui crée le cerveau de l'homme de manière exceptionnelle, mais c'est la nature, c'est-à-dire le cerveau qui a muté, on ne sait pas trop comment, mais qui est devenu trop gros et qui invente Dieu pour se rassurer. C'est vrai que Dieu a des valeurs adaptatives formidables. Moi qui suis athée, je peux vous dire que je vois la mort arriver, je préférerais croire en quelque chose. Mais enfin bon, donc je fais du théâtre, j'ai fini. Bon. Vie, le théâtre, quoi.
Il y a peut-être, avant de vous donner la parole, là, moi je n'ai pas suivi, mais c'est vrai que ces derniers temps est apparu un peu une réflexion des expériences sur les... Il faut prendre ces choses-là au sérieux, parce que c'est des gens, des artistes doués... Hirata, le japonais, qui utilise les robots, dans quelle mesure l'apparition de ces possibilités techniques produit du nouveau sur le plateau, est-ce que ça produit un nouveau langage, est-ce que le sentiment, parce que les mannequins, comme disent tous, ils sont, ils nous ressemblent, mais ils participent de la catégorie de la mort, de l'effroi, etc. Ce n'est pas le cas des robots. Moi, je n'ai pas vu le spectacle de Gennevilliers, mais est-ce que vous êtes posé cette question? Est-ce que ça introduit une autre manière de se situer par rapport,
dans un théâtre,
par rapport à l'absence?
Dans un théâtre mimétique, ce qui n'est pas le mien, c'est vrai que les robots introduisent une concurrence assez dramatique, si j'ose dire, pour le comédien, parce qu'il ne faut pas grand-chose, hein, de la part d'un robot pour donner une apparence d'humanité, justement. Moi, j'ai essayé un petit peu, je ne suis pas de fanatique, je n'y arrive pas, je ne trouve rien, mais j'ai essayé quand même. Et c'est vrai qu'il est rapidement plus humain que l'humain, quoi. Et pas sur le mode de la marionnette, sans doute sur autre chose, parce que, d'abord, il peut être interactif aussi, tu peux dialoguer avec lui, et moins il ressemble à une figure humaine, plus il est dangereux. Mais ça, je serais comédien, je me méfierais des robots, t'as raison.
Est-ce que vous avez des...
Est-ce qu'il y a des robots dans la salle?
Sur Hirata en question, je me suis dit, le robot, c'est l'idéal de l'homme, parce que ce que Hirata souligne, c'est que son robot a des qualités, il faut justement qu'il ait des qualités différentes, il ne ment pas, et il se souvient de tout. Et dans cette mesure, Donc, il nous donne une image à construire.
Il doit être plus facilement réparable que les autres.
Donc un humain déployé, ce n'est pas du tout une anti-humanité. Mais pour rester dans une anti-humain, n'oubliez pas qu'il y a aussi quantité d'écrivains qui sont anti-humanistes.
Mais j'espère.
Genève, vous avez parlé tout à l'heure, et Lorena, et Darnieu, et quantité d'auteurs contemporains, Anna Ehling, et puis Goethe, et puis...
Tous, en fait. Tous, en fait.
Ben vous, si vous ne regardez pas, vous tous.
Est-ce que vous avez...
Téléphone.
Vas-y.
Un spécialiste.
J'en retiens en fait, vous étiez parti sur une façon de caractériser l'humain, disons, un cliché un peu spontanément, c'est l'organique. Et du coup, on se dit, ça s'oppose à la machine. Et puis, dès le début de la conversation, Jean-François, je pense, une autre façon de caractériser l'humain, qui est plutôt l'accidentel. L'imprévisible, etc. Et c'est pas la même définition de l'humain, mais caractérisé par l'accident, par l'organique. Et du coup.
Il y a des accidents dans l'organique.
Comment ?
Tu verras quand tu seras vieux.
Mais, ouais. L'accidentel, du coup, ça
ben c'est que le Gordon Craig refuse l'humain, justement, en raison des craintes. Des craintes que lui inspire la présence de l'homme sur un plateau. En disant, l'homme sur un plateau n'est pas, on parlait du pouvoir aussi, l'homme sur un plateau n'est pas un matériau artistique dans la mesure où il est sujet à des accidents de toute nature. Et donc, pour que le plateau soit vraiment un domaine entièrement de l'art, il faut écarter l'humain au profit de la surmarionnette.
C'est plus ça qui caractérise la vie et l'humain, c'est l'imprévu, l'accidentel, et Jean-François...
Moi, je ne fais pas l'éloge. Mon problème, ce n'est pas de faire l'éloge. Moi, je ne faisais que, en quelque sorte, rappeler les termes, les termes de ce dilemme et de cette tension, parce que...
Et on peut se dire...
C'est une chose intéressante, c'est quand Gordon Craig, c'est peut-être la figure qui a travaillé le plus, on parlait de l'inconscient artistique des metteurs en scène, c'est que des metteurs en scène très opposés ont toujours fait référence à Craig comme si ce rêve de la surmarionnette était l'utopie inatteignable du théâtre, c'est qu'on se dirige vers... Et c'est jusqu'au moment où est intervenue l'improvisation, tout ce qui est le propre de la modernité à partir des années 60.
Enfin, un robot intelligent, donc qui raisonnerait et ne ferait pas de faute de logique, se demande quand même comment quelqu'un qui fait du travail théâtral, un travail au théâtre, a envie d'exclure, le comédien de gêne. Moi, ça me paraît quand même, il peut faire autre chose, quoi, je veux dire, de la peinture ou de l'aquarelle. Mais je veux dire, si on commence à dire, effectivement, je vois, il y a quand même une volonté de maîtrise, une volonté de pouvoir dire, justement, c'est pas d'exclure l'humain, c'est de le réduire à être sa machine, sa créature, quoi. Je veux dire, c'est une question, effectivement, où est la créature, quoi. Je veux dire, si tu considères que le comédien est un créateur, et effectivement, on est ouvert à l'accidentel, à l'indéterminé, on ne sait pas. Enfin, bon, je trouve ça justement ce qui est beau dans l'interaction entre un metteur en scène et ses comédiens. Mais je comprends en même temps qu'on ait envie, qu'on a sa représentation, et il faut qu'elle soit conforme à la production cérébrale de la chose, ce qui est réfrigérant quand même.
Ce qui est, peut-être on peut, même sur le plan esthétique, on peut observer la différence entre... Des metteurs en scène qui ont cherché justement ce que tu dis, cette maîtrise, tout en la camouflant, parce que chez Wilson, tu le disais, c'est très flagrant que Wilson est là derrière et qu'il conduit comme une sorte de maître des opérations l'ensemble des éléments de la représentation des éclairages, du son.
Pour Oh les beaux jours, la tournée était très compliquée parce qu'il y avait 17 techniciens.
Oui.
Elle était seule sur scène, il y avait 17 personnes derrière, c'est une espèce de folie Mais je pense à quelque chose. Il y a aussi, dans des spectacles, sans aller jusqu'au robot, c'est le propre du théâtre qu'il y a une partie mécanique. Il y a toute une machinerie, c'est évident, quelle que soit la personne. Quoi qu'on voit sur le plateau, on sait qu'il y a toute une machinerie autour. Et c'est, de tout temps, ça a été le cas. Mais c'est la présence d'images vidéo qui me gêne, et en même temps, c'est extrêmement important. Je me rappelle un spectacle très classique que j'ai vu en Italie, qui était « Comme tu me veux » de Pirandello, avec Claudia Cardinale. Et Claudia Cardinale était donc, vous savez que Comme tu me veux est l'histoire d'une femme amnésique que l'on essaie de persuader qu'elle a eu une autre existence. En réalité, c'est une supercherie. Et bon, c'est toute l'histoire de la pièce. Et on lui présente dans la pièce des photos d'elle. Et le metteur en scène, qui était le mari d'ailleurs de Claudia, avait eu l'idée de projeter des images. Donc c'est récent, hein, elle avait donc 70 ans quand elle jouait cette pièce, et il y avait des photos d'elle dans des films, dans La Viaccia, le film qu'elle jouait. C'était très dur, évidemment pour elle, parce qu'on voyait une femme de 25-30 ans qui était derrière elle et qui était censée être la femme qu'elle avait été. Et pour les spectateurs, c'était terriblement déconcertant, évidemment, parce que c'était l'image que l'on avait de Claudia Cardinale, et puis la réalité qui était sur scène, et à part qu'évidemment, très rapidement, la réalité va devenir l'image. Parce que pour Claudia Cardinale, pour tout le monde, c'était la fille de 25 ans, 30 ans qui était sur l'écran, et la femme réelle qui était là n'était plus elle. Et en même temps, ça crée une émotion inouïe. Le conflit, justement, entre tout l'appareillage de... Parce que ça réclamait effectivement aussi un appareillage de projeter le film à la seconde. Tout devait être évidemment extrêmement minuté. Et l'effet était finalement très théâtral, mais terriblement troublant, parce que on ne savait plus quel était le statut de la présence du comédien sur scène.
Oui, puis là, c'est pas un jeu, quoi. Parce que
ça
renvoie à une réalité hors scène aussi. Donc,
on était en plein Pirandello, ça, effectivement.
Ouais. Le mari, peut-être qu'il a une nostalgie de sa femme.
Ah, bah ça, c'est sûr.
Peut arriver. Hein. J'ai bien vu ça. Surtout Claudio Cardinale.
Moi, je voudrais poser une question, c'est. Pourquoi l'improvisation et les interactions vivant-machine seraient plus du côté de la vie que quand il y a un texte ?
Moi, j'ai pas dit ça. Ne dis pas cela.
Là, vous dites que selon le comédien qui joue, le spectateur...
Non, mais sauf que c'est une expérience comme ça. Je parlais de cette
expérience. J'ai un cours après la vie, au théâtre.
Pourquoi ? Moi, je n'en sais rien. Non, mais c'est pas moi qui ai choisi les catégories dans lesquelles... On bavasse ce soir. C'est quand même au ministère, c'est considéré par un spectacle vivant. Donc c'est souvent d'un mortel ennui, je vous reconnais. Ça, oui, mais
de modernité à partir des années 60, on va plutôt.
Non, mais si pour répondre juste sur ce point-là, je me défendais de l'idée que parce qu'il y a des machines, c'est pas vivant. Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez prégnant. Mais c'est pas pour dire que quand il y a un grand texte et des comédiens qui le jouent, c'est mort. Enfin non, bon, ça peut l'être. Hein. Déjà, Goethe disait que Shakespeare, c'était un lesbourg, c'était fait pour être lu. Bon, les jurés apprécieront. Mais c'est-à-dire que c'est simplement pour dire que ce type d'expérience, mais ça vaut pas pour toutes. Parce que là aussi, je crois que c'est une question... Il y a les deux branches, on les retrouverait à l'intérieur de gens qui travaillent beaucoup sur ces dispositifs numériques, etc. Ou bien ça renforce la marionnettisation, parce qu'effectivement, on va créer une partition au comédien qui va être... En plus, il doit jouer comme un comédien, avoir les bons tops. Ou bien, c'est comme j'essaie de chez moi, mais encore une fois, on en parlera plus après... d'être un lieu d'expérimentation vivant, justement. Mais ça peut ne pas l'être du tout, comme un comédien, ou des comédiens avec un texte peuvent être vivants ou pas vivants d'ailleurs, selon le résultat. Mais non, c'est pas. De toute façon, j'ai aucun pouvoir sur personne. Je ne défends que mes petites affaires comme ça, non, mais régulièrement.
Vous avez dit, c'est du côté de la vie.
Oui, mais ça ne veut pas dire du côté de la vie. Il y a des tas de choses du côté de la vie qui ne sont pas ça. Bon, je veux dire, c'est pas la déshumanisation du théâtre, le fait que tout d'un coup, un comédien joue avec son image ou avec autre chose, que sa voix se transporte. Ces expérimentations-là me paraissent effectivement vivantes, mais elles peuvent ne pas l'être. Et du côté de la vie, parce que c'est la problématique. Moi, la mienne, en tout cas, je ne la réfère pas par rapport à l'histoire du théâtre, ça serait un petit peu pompeux, mais plutôt à l'état dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, c'est vrai, moi, quand je regarde mon ordinateur, je ne sais pas où il commence et où je m'arrête. Mon cerveau, je veux dire, je vais déléguer beaucoup de choses. Si on me le vole, si on me vole mon appareil portable, je ne sais même pas rentrer chez moi, je ne peux pas le code. La mémoire, la vraie, elle flanche un peu avec l'âge. L'autre fois j'ai essayé d'appeler ma fille, je ne savais pas son numéro. Alors je me souviens de celui de ma grande-tante, Alésia 43-50, dans les années 50, qui habitait à Montrouge, je m'en souviens encore. Ça c'est de la mémoire, d'accord. Bon, donc on apprenait des choses, quoi. Là, maintenant on a délégué énormément aux machines des choses qui sont nécessaires à la vie. Bon, alors on vit évidemment dans un milieu où il faut davantage s'adapter aux machines qu'elles s'adaptent à nous. Bon, ça c'est vrai, il y a eu un saut qualitatif, mais déjà Thoreau, je vous recommande d'aller voir, mais il n'y a pas de place, disait, nous sommes devenus les outils de nos outils. Bon, ça c'est une vraie réflexion à avoir, je fais pas le technophile, là, je le fais un petit peu dans le milieu théâtral, parce que, bon, dès que je suis sorti, je redeviens technophobe comme tout le monde, ou disons indifférent, mais je pense que c'est effectivement des questions qui sont posées en ce moment, à nos façons d'avoir un corps, d'avoir des corps qui se promènent comme ça, les effigies qui sont en effigie, les morts parlent. Je garde toujours dans mon appareil les voix des morts. Je les efface pas. C'est quand même agréable. Bon, les morts proches comme ça, parce que les autres. Bon, c'est très troublant, quoi. Et comme le trouble, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est des émotions, oui. Donc c'est gêné. C'est pas simplement. Évidemment, on est dans une société de tout communication et on peut très, très facilement dire on n'a rien à se dire, etc. On est tout le temps comme ça. Mais être tout le temps dans le métro en train de regarder quelque chose ou rien faire du tout, lire 20 minutes, moi j'aime autant les gens qui regardent leur truc, à la limite. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans, on ne sait jamais. Oui. J'ai même rencontré dans le métro en venant des gens qui lisaient des livres. Donc, comme quoi, à l'aller, il y avait des gens derrière la machine, en revenant, il y avait des gens. Face à l'écrit, c'est beau quand même. On est dans cette palpitation-là, quoi. Bon, ce qui est loin de la vente des cerisés, je reconnais.
Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres observations, remarques, dialogues? Le silence parle.
C'est une sonnerie. Hein.
Mais donc la dernière rencontre aura lieu le 6 février avec Christophe Wardikowski qui a déjà interrogé la relation très dramatique entre amour et désamour. Donc il sera à Paris à l'occasion de son spectacle présenté à Chaillot. Donc on vous convie pour la fin de ce cycle sur cet écartèlement qui est, je crois, réel, et je l'ai dit déjà au début, pour l'homme de théâtre, plus que pour d'autres artistes. Voilà, mais je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée théâtrale ou pas théâtrale.
Bien bonne. Bien bonne.